Eh bien donc, les vacances se sont terminées, vous en étiez tous aperçus, et donc consécutivement, Table Ovale sans ellipse reprend le cours de ces émissions. On commence par Villefranche, le mois prochain nous serons à Rodez, et ainsi de suite. Donc Table Ovale, parce que à CFM, la table n'est ni ronde, ni carrée, elle est ovale. Et donc Table Ovale, où CFM invite chaque mois, donc tantôt à Villefranche, tantôt à Rodez, les représentants locaux des partis politiques nationaux. Nous envoyons nos invitations à tous les partis politiques nationaux. Et ce soir ont répondu Laurent Tranier pour l'Union pour un mouvement populaire, Christian Gros pour le Modem, Jean-Louis Calmette pour Europe Écologie Les Verts et Lionel Lacroix pour le Parti Socialiste. Et comme d'habitude, c'est Claude Devezin qui anime, qui tente d'animer cette table ovale sans ellipse, puisque j'espère que mes invités n'auront pas recours à cette forme d'expression. Le sujet que nous avons choisi pour ce soir, c'est de nous préoccuper des pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, c'est quelque chose qui a été inventé, si ma mémoire est bonne, en 2004, lancé, je dirais inventé au plan national, pour ne pas dire gouvernemental. Il s'agit de créer des synergies entre les chercheurs, donc les établissements d'enseignement, les entreprises et les collectivités locales. C'était en principe quelque chose organisé pour relever, avoir des idées. Et des idées presque fortuites nées de la rencontre de gens ayant des disciplines différentes, mais ils se sont tout de même organisés en filières, ces pôles de compétitivité. Dans Midi-Pyrénées, il y a d'abord eu le Cancéropole et puis l'Aéronautique Valais, et très vite ça a été rejoint par Agrimip qui a bien sûr de nombreuses émanations en Aveyron. Quand je dis émanations, alors ils appellent ça des clusters. Pas confondre avec clister, ça n'a pas du tout le même effet. Et donc c'est cluster, pour être plus américano, plus états-unien, puisque je suppose que c'est le but du terme. Donc sont ceux qui s'agglomèrent dans ces pôles de collectivité, des unités d'enseignement, des entreprises, des firmes ou des collectivités locales. Et la première question que je voudrais poser, puisque je m'adresse à des représentants politiques, c'était déjà, d'une part, de savoir l'idée que s'étaient fait les partis en question quand c'est sorti en 2004. Est-ce que vous avez adhéré? Est-ce que vous méfiez? Et puis on va voir après comment ça s'est développé. Monsieur Lacroix, pour le Parti Socialiste.
Bonsoir à tous. Lorsque les pôles de compétitivité ont été lancés, un tournant a été marqué en matière d'aménagement du territoire sur laquelle les socialistes ne se sont pas opposés. Pourquoi ? Parce que il faut comprendre, pour qu'on soit clair pour les auditeurs, passer avec ces nouveaux pôles de compétitivité un aménagement du territoire totalement différent. Bien avant, la conception très française de l'aménagement du territoire était d'éviter les concentrations des activités sur un territoire riche. Vous savez, à une certaine époque, certaines régions avaient les moyens d'avoir une politique. On a parlé de déménagement du territoire, et l'objectif des pouvoirs publics était souvent de freiner ces concentrations et d'éviter en contrepartie le déclin des autres. Et donc c'était la conception classique qu'avait la France de l'aménagement du territoire. Et à partir de 2005, on a considéré que la concentration d'activités d'une même spécialité sur un même secteur était favorable à la productivité. Et donc c'est en ça qu'on a mis en place ces pôles de compétitivité. Et donc la finalité aujourd'hui, elle n'est plus la concentration, mais bien la spécialisation de partenaires, comme vous avez évoqué, d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur, de recherche, puisque avec ces pôles de compétitivité, on a réussi aussi à fédérer, et c'est bien plutôt de la coopération. Et moi, je fais partie de ceux, et c'est mon avis personnel, ici on parle sans ellipse, à récuser le terme de pôle, puisqu'aujourd'hui, moi, je considère que le terme de pôle est usité trop souvent pour presque parfois ne rien dire. On a utilisé ce terme souvent en termes de géographie, les pôles nord, pôles sud. Aujourd'hui, C'est peut-être un détail, mais on va y revenir dans le débat, parce que c'est quoi un pôle ? Ici, on pourrait penser que c'est un pôle d'intérêt commun. Pareil, les anglo-saxons ont les mêmes systèmes et ils définissent comme ça. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui de ces pôles-là ? Est-ce que il y a le même intérêt de tous les acteurs de ces pôles de compétitivité ? On va en débattre ce soir. Moi, je crois qu'il faut plutôt parler de territoire dynamique. Alors, on peut appeler ça les clusters, comme vous l'avez évoqué. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le projet de coopération entre les acteurs de la recherche, du développement, les socialistes, en tout cas moi je ne suis pas du tout opposé, je pense que c'est un outil qui est positif, avec des inconvénients que j'évoquerai tout à l'heure quand j'en aurai la possibilité.
Alors, Monsieur Tranier, on a une idée gouvernementale que Monsieur Lacroix a l'air d'apprécier.
Écoutez, c'est très bien, c'est très bien. Le but hein, de ces pôles de compétitivité en 2005, il y en a 66 qui ont été labellisés en France. Ils sont thématiques par secteur d'activité, avec une ambition de pointe, et ils sont régionaux aussi, au sens large, au sens d'un territoire, disons, d'activité, mais qui ne recoupe pas forcément des limites administratives. L'objectif, c'est de rendre plus compétitive sur les territoires ruraux ou en tout cas de province, les entreprises pour créer de l'emploi et créer de l'activité, de la richesse. Voilà. L'idée, c'est de créer du réseau, de mettre en commun ou de rapprocher à la fois physiquement et aussi à travers des projets des entreprises de même secteur. Alors, vous avez cité les principaux pôles d'activité de la région Midi-Pyrénées, mais ça dépasse la région Midi-Pyrénées, qui sont Aérospace Valais. Alors, on connaît la spécificité de la région toulousaine en matière aéronautique et spatiale, qui sont...
si je me trompe pas.
Exactement. Qui sont Agrimip Innovation. Et là aussi, on connaît le potentiel de notre région qui est... pour ne parler que des signes de qualité en matière agricole, la première en France. Mais là, l'idée, c'est aussi d'aller vers des nouvelles techniques de transformation, de distribution, de nouveaux produits. Et puis aussi, donc, à travers Cancer Biosanté, le Cancéropole à Toulouse, c'est le troisième grand domaine régional dans lequel se développe les pôles de compétitivité avec une mise en commun des ambitions des entreprises, de leurs recherches, des recherches qu'elles conduisent, et de ce que font aussi les organismes publics de recherche qui sont partie prenante avec des projets de développement et de mise en commun.
Monsieur Calmette, pour Europe Écologie et Les Verts, votre opinion.
On a eu d'abord, on était très circonspect déjà sur cette création. Il faut savoir qu'avant existait ce qui s'appelait les systèmes productifs locaux, où c'était aussi une mutualisation d'entreprises qui, ma foi, marchait très bien. Je pense notamment à la Mécanique Vallée qui part de Tulle, en passant par Figeac de Casiville et qui va jusqu'à Rodez. Je crois que ça fonctionne très bien. On a attendu de voir comment fonctionnaient ces pôles de compétitivité. C'était quand même, me semblait une bonne idée de mutualiser des compétences. Peut-être pour les PME d'acquérir des compétences supplémentaires normalement pour les aider à l'exportation, de l'ingénierie financière, de les aider aussi dans tout ce qui est propriété intellectuelle. Mais on s'aperçoit qu'à terme, ce sont plutôt des grosses usines à gaz, des machines, comme aurait dit quelqu'un d'autre, qui sont surtout basées sur des logiques ultra-libérales et productivistes et qui distribuent des grosses masses d'argent qui vont principalement à des grands groupes nationaux et internationaux ou à leurs filiales. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que d'abord, on a beaucoup de craintes là-dessus, notamment sur la recherche, et on s'aperçoit que ça favorise plutôt la recherche appliquée, notamment pour l'obtention de brevets qui sont peut-être plus rémunérateurs que la recherche fondamentale. Et puis, quand on regarde un peu la carte de tous ces pôles, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes thèmes. Alors, je prends le pôle Bourgogne, qui est un pôle nucléaire, le pôle Auvergne, qui est un pôle axé sur céréales vallées, donc autour de l'Imagrain et des OGM. Je pense à Rhône-Alpes, autour des nanotechnologies. Donc, beaucoup de réticences sur le fonctionnement de ces pôles, sur la démocratie et sur la distribution d'énormes sommes d'argent qui vont beaucoup à des grands groupes, en fait, et qui aident très peu les PME.
Mais j'étais inquiet, on a enfin trouvé une note discordante. Je ne sais pas si M. Gros pour le Modem va rejoindre l'un ou l'autre camp.
En ce qui nous concerne, déjà, vous avez parlé de la date de 2004, qui est l'époque, l'année à laquelle le gouvernement Raffarin a lancé les pôles, au nombre de 71, je tiens à vous corriger, il y en a encore 58 qu'on estime à peu près viables. Pour nous, ça n'était pas une nouveauté. François Bayrou, par exemple, vient de sortir un livre, celui-là il est récent, il parle de la... Je le montre pour les caméras. Hein. C'est un livre qui parle de l'industrialisation, la relocalisation de l'industrie en France. Donc c'est un thème qui nous est cher. Et quant au cluster et pôle de compétitivité, c'était une rengaine qui a grainé chez nous un nommé Christian Blanc, dont on a entendu parler après pour la qualité de ses cigares. Mais c'était un thème récurrent chez nous, les pôles de compétitivité. Alors les pôles de compétitivité, ils peuvent être à vocation mondiale, à vocation nationale, à vocation régionale, en mettant en synergie, comme vous l'avez dit, les labos de recherche, les universités, les industriels. La seule chose qui se passe, c'est que lorsqu'on a lancé ces pôles, on leur a donné 750 millions pour 5 ans, ce qui, d'après mon voisin, est beaucoup d'argent, mais qui n'est rien comparé à un seul pôle lancé à Barcelone avec 5 milliards. À Hong Kong, je ne vous parle pas, le pôle qui a été lancé doit être au double. Donc déjà, on ne peut pas avoir avec un saupoudrage autant de résultats qu'on l'aurait voulu. Alors quant au bilan pour l'Aveyron, je rejoins quand même Europe Écologie sur ce plan. Il faut bien dire que d'une manière générale, tant l'argent distribué au pôle que le crédit impôt recherche va plus facilement aux grands groupes qu'aux PME. Mais l'Aveyron agit essentiellement en sous-traitant, que ce soit à part Agrimip, où effectivement notre technicité nous permet d'être vraiment leader. Mais dans le pôle aéronautique, nous sommes dépendants de Toulouse. Dans le pôle, dans les différents pôles qu'il y a, nous sommes dépendants d'autres pôles qui sont géographiquement plus loin et menés généralement également par des grands groupes.
Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels ?
Je ne sais pas, vous avez un pôle bois par exemple qui passe par l'Auvergne, le Limousin. Vous avez Avionique qui est essentiellement centré sur Toulouse. Alors, je n'ai pas critiqué. Je pense que c'est bien que nous bénéficions de ça. Mais le rôle de l'Aveyron est quand même relativement marginal dans les pôles qu'il y a. Voilà ce que je voulais dire.
Sauf à Grimby. Quand je vous écoute, je m'aperçois qu'il y a... parce que ça devait être ma deuxième question, de savoir ce que les gens étaient véritablement venus chercher. Parce que quand on a lancé ce type d'expérience, moi j'ai bien participé au lancement des pays, c'est tout à fait autre chose, mais... en gros, quand même, la plupart des gens qui participent à ce type d'expérience, le plus souvent, viennent chercher des fonds. Et la façon dont on décrit ce que doit être l'épaule, bah, normalement, on ne doit pas nécessairement venir y chercher des fonds. Alors, c'est déjà ma question, et Monsieur Gros y a en partie répondu, en se plaignant justement qu'il n'y en ait pas assez de fonds. Est-ce que c'est ça qu'on doit venir chercher dans l'épaule ? Monsieur Calmette nous a dit que les gens étaient venus chercher une espèce d'assistance administrative, et j'avais compris que c'était un peu autre chose. Alors, est-ce que sont venus chercher les gens qui participent à ces pôles? Je rappelle qu'il faut y adhérer, il faut payer une cotisation, qu'on soit entrepreneur individuel ou département, collectivité locale. Hein, qu'est-ce que les gens sont venus chercher là? Oui, monsieur Trani.
Oui, l'esprit d'un pôle, c'est de se regrouper pour travailler ensemble et dégager des projets et des idées nouvelles qu'on n'aurait pas tout seul. Le modèle idéal, c'est celui de la Silicon Valley en Californie, qui est le centre mondial en matière de nouvelles technologies. Alors c'est le modèle rêvé, idéal, bien sûr, qu'on essaie de reproduire domaine par domaine, en permettant aux gens qui sont soit sur des mêmes lieux physiquement, soit qui ont des instances pour se rencontrer et partager leurs projets. Ils vont chercher les membres des partenaires. Des partenaires qui sont complémentaires de leur activité. Quand ils ont le projet de développer une technologie, ils ont besoin de partenaires qui maîtrisent mieux certains aspects de cette technologie. Et c'est le lieu de les rencontrer. Ils ont aussi besoin d'innover. Et c'est aussi le lieu où ils peuvent rencontrer les laboratoires de recherche, qui soient ceux de grands groupes, qui, c'est vrai, ont davantage de moyens pour faire de la recherche que les PME. Sachant que les PME ont la capacité, et les PMI, à peut-être être plus réactives au moment d'innover et de développer des productions. L'idée, c'est de réunir des entreprises de toute taille avec des chercheurs pour être plus efficaces. Voilà, c'est ça. Le pire ennemi du chef d'entreprise, c'est l'isolement. Là, il n'était pas évident pour des personnes, même si elles sont dans le même secteur d'activité et qui sont à peut-être 200 km de distance, de travailler ensemble, alors qu'elles ont des choses à faire ensemble.
Est-ce que je pourrais obtenir du camp des Propôles, qui sont donc le Parti Socialiste et l'UMP, Oui, mais à vous, il vous faut des milliards.
Ah non, non, moi je suis pour les pôles à condition qu'ils réussissent.
Oui, monsieur Gros, d'ailleurs, une parenthèse, vous êtes pour les milliards pour les pôles de compétitivité, mais vous m'avez montré le livre de François Bayrou. Je crois que dans un autre chapitre du livre de François Bayrou, il y a le retour à l'équilibre des finances publiques.
Tout à fait.
Voilà, il faut pas l'oublier.
François Bayrou est toujours le premier. C'est le premier à avoir parlé de l'équilibre des finances publiques. C'est le premier encore à avoir parlé de la réindustrialisation qui actuellement fait écho dans d'autres parties.
Je visais simplement attention au grand écart.
Non, mais c'est pas un problème. Un pôle de compétitivité, ça doit être un investissement. Investissement sur l'avenir.
Non, mais sur le fond, je crois qu'on est d'accord.
Non, on paye pas. Il ne s'agit pas de payer des gens à ne rien faire. La seule chose, c'est que monsieur Calmette a raison quand il dit que c'est surtout les grands groupes qui bénéficient de l'argent. Le crédit impôt recherche en est la preuve absolue. C'est les entreprises qui sont les plus riches qui bénéficient le plus de crédit impôt recherche. Les pôles de compétitivité, je ne dis pas qu'on a ça, mais c'est pas loin quand même.
C'est en partie vrai, mais c'est aussi les PME, PMI qui sont dans des domaines de haute technologie, qui ont simplement un projet de recherche, pas de marché encore, et puis qui font de gros investissements avant de démarrer en matière de recherche. Et quand, ça, ils en profitent.
Vous allez peut-être me donner un exemple de synergie fructueuse dans un pôle.
Mais la synergie fructueuse, je crois que l'erreur qui est faite là ce soir par tout le monde, c'est de croire que d'un côté il y a les PME, PMI et de l'autre côté les grands groupes. Bien souvent, les deux sont liés et on voit l'exemple. Et oui, non mais on voit, par exemple, prenons quelque chose qui nous parle à nous environnés, c'est le pôle agricole sur l'agribip, innovation, qui, même s'il y a des grands groupes qui trouvent leur intérêt, qui a pour objectif de protéger quelque chose qui se fait rare dans l'économie mondialisée, à savoir le fromage au lait cru. Et les grands groupes qui travaillent sur les fromages et les crus, ils font aussi travailler des coopératives, ils font aussi travailler des hommes et des femmes qui sont dans des caves, par exemple à Roquefort. Donc je crois qu'il faut déjà ne pas segmenter les secteurs d'activité économique. Aujourd'hui, on est dans une économie mondialisée. Pourquoi ces coopérations, elles sont bénéfiques? Parce qu'elles permettent à chacun de se mettre autour de la table. Moi, j'y suis favorable sur l'idée. Après, on est là pour parler des pôles de compétitivité à Midi-Pyrénées pour faire leur bilan. Il y a des difficultés parce que aujourd'hui, en tant que représentant des partis politiques, nous sommes en train de commenter la participation de l'État. Qu'on soit clair, ce qu'il fait à Silicon Valley aux États-Unis, où il y a d'autres projets qui se font ailleurs en Europe, ils n'ont pas besoin de l'État. Les partenaires privés peuvent aussi faire des coopérations sans l'État. En France, nous avons décidé depuis 2005 de mettre en place ces systèmes-là qui font en sorte que les collectivités, l'État, sont partie prenante des projets sur le territoire. Monsieur Gros du Modem a parlé des coûts. On peut parler de milliards, de millions d'euros, je suis pas sûr que ça parle aux auditeurs. La question, c'est pas combien on y met, et c'est scandaleux. La question, c'est combien on y met et combien ça rapporte.
Je suis d'accord.
Et si chacun d'entre nous, on va regarder, parce qu'il y a eu des rapports sur les pôles de compétitivité, là on discute... C'est très intéressant. Mais il y a eu un rapport qui est très officiel d'un organisme qui dépend du ministère de la Recherche, qui s'appelle le Centre pour Recherche Économique et ses applications, et qui considère que l'investissement est souvent trop élevé par rapport à ce que ça rapporte. Très simple, pour qu'une entreprise gagne 5% en productivité, il faut qu'elle double son niveau de spécialisation. Ça veut dire aujourd'hui que les pôles de compétitivité, même si c'est un outil intéressant, il y a des choses à revoir. Qu'est-ce qu'il faut revoir ? Peut-être, c'est est-ce que l'État doit continuer à distribuer des subventions ou réformer les possibilités de s'installer et de sortir pour les entreprises ? Est-ce qu'il faut aussi parler de la mobilité des travailleurs ? Puisque aujourd'hui, le risque qu'on court avec les pôles de compétitivité, c'est de trop spécialiser sur une région donnée. Et là, c'est là où je rejoins Jean-Louis Calmette. Le risque peut-être parfois d'avoir des secteurs ultra spécialisés comme l'aerospace vallée, qui aujourd'hui sont en vogue, mais qui peut-être dans 20 ans ne le seront plus. Comment on fera si les travailleurs de la région toulousaine, de la région Midi-Pyrénées et Aquitaine ne sont pas à même de pouvoir se mouvoir et aller prendre un emploi ailleurs en France? Donc ces questions-là, elles sont concrètes et il faut se les poser. Ça veut dire que nos pôles de compétitivité, même si ce sont des outils intéressants, il faut travailler sur ça. Pareil sur la recherche. Aujourd'hui, pour ma part, on n'est pas au niveau, en termes de laboratoires de recherche, les universités françaises, même si elles ont été réformées par Mme Pécresse, n'ont pas véritablement des pôles, encore une fois, de recherche à la hauteur de ces pôles de compétitivité. Donc, ne voyons pas, il n'y a pas de résultat miracle avec ces pôles. Il faut véritablement travailler sur les questions qui sont très techniques et ne pas essayer de simplifier quelque chose qui est suffisamment complexe.
Je redonnerai la parole plus tard à M. Tranier, mais qui me la demande. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction ? Parce que je constate que les pôles de compétitivité, après on parlera de leur localisation, mais les pôles de compétitivité se sont manifestement organisés en filières. Et si on veut découvrir des usages inusités de telle ou telle production, il me semble que c'est pas en restant dans sa filière. Si on veut que l'industrie textile découvre que tel produit agricole peut être utilisé ou que l'industrie de la construction, c'est en les mixant.
On prend un exemple très concret pour les auditeurs. On prend l'aerospace Valley qui a mis en place, ça fait partie des innovations et des brevets, et je suis malheureusement pas d'accord avec Jean-Luc Calmette sur ce point-là. On a aussi besoin de brevets en France et en Europe, même si ça ne veut pas dire. Je pense qu'en France,
on a besoin de recherche fondamentale.
On a besoin aussi, je suis d'accord avec ça. Mais ne mettons pas. Ça, c'est une attitude très française de mettre à chaque fois en opposition. Ce n'est pas parce qu'on va aider la recherche privée qu'il ne faut pas faire la recherche publique. Ce n'est pas parce qu'on va aider la recherche publique qu'il faut interdire la recherche privée. Il faut travailler sur globalité. Là, on touche du doigt des mécanismes qui sont complexes. Un exemple concret qui prouve que la recherche et le développement dans les pôles de compétitivité peut être utile. L'Aerospace Valley a breveté un système de surveillance des patients en zone rurale 24 heures sur 24 par satellite. C'est-à-dire qu'en travaillant sur des choses qui sont destinées peut-être pour certains à faire l'artifice et à aller se balader dans l'espace, on a réussi à pouvoir avoir une surveillance des malades qui en zone rurale sont souvent malheureusement trop isolés, et on a réussi à mettre en place ce système-là. Donc l'affaire de la recherche dans un domaine précis, ça ne veut pas dire qu'on se ferme et qu'on est que simplement en train de breveter des systèmes qui vont nous faire gagner beaucoup d'argent. Il y a aussi dans la recherche privée des choses qui sont intéressantes. Mais je suis d'accord aussi qu'il faut développer la recherche publique. Mais arrêtons de à chaque fois d'opposer les sujets les uns les autres.
Alors, Monsieur Dranier.
Oui, je veux revenir sur l'évaluation de l'efficacité des pôles de compétitivité. Elle est réelle et certains d'ailleurs évoluent, disparaissent, fusionnent, d'autres sont créés. En 2010, ça a été le cas. Donc c'est peut-être pour ça, Monsieur Gros, qu'on n'avait pas les mêmes chiffres, mais ce sont des domaines de l'argent public qui sont aussi évalués et en fonction de leur efficacité. Je voulais dire qu'il y a aussi, il ne faut pas attendre monts et merveilles des pôles de compétitivité qui sont un outil intéressant, très intéressant de développement des territoires, mais il y a aussi une vie économique en dehors des pôles de compétitivité. Ils ne concernent pas toute l'activité, qu'elle soit industrielle ou de service ou quoi que ce soit. L'enjeu pour nos territoires ruraux, c'est de concilier une économie peut-être plus traditionnelle, de services et aussi productive, avec ces activités de pointe là. Et les pôles de compétitivité sont un outil supplémentaire au service de ceux qui le veulent, ou des chefs d'entreprise qui le veulent ou qui le peuvent, et qui ont les moyens d'y adhérer.
Monsieur Rossio, vous sembliez prêt à réagir sur ma question incriminant le rassemblement en filière des pôles.
Non, pas forcément. Ça peut être tout à fait justifié, effectivement, de se mettre en filière. Dans certaines activités, par contre, il faut effectivement essaimer sur d'autres choses. L'exemple que cite M. Lacroix me paraît tout à fait judicieux, et c'est vrai. La seule chose qui se passe, c'est que quand on met une somme qui a été quand même qu'un saupoudrage, il faut bien dire que quand on fait le Génopôle, par exemple, à Corbeil, il y a besoin d'énormément d'argent. Sur Agrimip et les crues, on se contentera de beaucoup moins. Et pour des résultats économiques qui peuvent être à court terme supérieurs pour Agrimip, le Génopôle travaille sur un long avenir. La question qu'il y a, c'est l'argent. Les Américains qu'évoquaient Lionel Lacroix, c'est un autre système. On passe par des business angels. Alors, eux, ils risquent leur argent. Après tout, ça ne coûte pas aux contribuables. Et ils ont une manière très intelligente de le faire. Ils misent sur 10 entreprises. S'il y en a une seule qui sort, ils ont récupéré leur mise. Donc, effectivement, alors, il faut regarder que peut-être, c'est le financement des pôles d'activité. Au lieu de... On a fait du crédit impôt, enfin, des exonérations fiscales pour les hauts revenus qui placent leur argent, par exemple, dans les petites entreprises. On aurait pu essayer de les orienter vers le financement des pôles de compétitivité ou la haute technologie. Bon, tout étant tellement décousu dans la gestion de tout ça, c'est un peu n'importe quoi qui s'est passé.
Et au total, une nouvelle niche fiscale.
Mais il faut bien dire une chose, c'est qu'il y en a actuellement, je crois, 58 qui tournent. On verra après quel sera le résultat. Sur le global, ça sera positif. Mais on n'a certainement pas mis assez et perdu quand même beaucoup plus d'argent que si on se concentrait sur quelque chose de fort. Alors pour ce qui est de l'Aveyron, parce que je crois que la question portait sur l'Aveyron, il faut effectivement voir qu'on a des retombées qui sont intéressantes, notamment par les liaisons avec Toulouse, la fameuse Avionique Vallée. Donc là-dessus, on a quelque chose. De Casseville, je me souviens, à l'époque où les mines ont fermé, le comité d'expansion économique cherchait à tout va à faire venir des entreprises. Ça, il y a eu des échecs. Au total, on a quand même réussi à faire quelque chose. Et là, il n'y avait pas les pôles de compétitivité. Finalement, on s'inscrit maintenant dans les pôles de compétitivité, mais l'Aveyron avait fait ça tout seul, au niveau du comité d'expansion économique. Donc, finalement, le pôle de compétitivité est important. Il faut le suivre, il faut l'aider, il faut aussi le surveiller pour que l'argent ne parte pas n'importe où, n'importe comment. Il faut en vérifier les résultats. Et en général, ce qui nous manque, c'est surtout les éléments d'évaluation. On ne crée pas d'agence, de contrôle, de tout. Chaque fois qu'on donne de l'argent, c'est une maladie française. On fait un coup d'éclat en disant on a donné, mais on ne vérifie pas derrière ce que ça a produit réellement. Ça, c'est un point important.
Alors, vous parlez beaucoup d'argent, tous autour de la table. Et sur les pôles de compétitivité, je suppose qu'on doit devoir donner de l'argent quand il a germé une idée, un projet. Sont-ils véritablement bien organisés pour effectivement avoir ces synergies qui font surgir des choses inattendues, de rencontres qu'ils sont presque autant. Et en même temps que je pose la question, j'en pose aussi une autre, puisque je vois qu'à Toulouse, les gens qui s'intéressent beaucoup au pôle de compétitivité sont les mêmes qui s'intéressaient et qui s'intéressent encore au pays. Alors ma question, c'est déjà ma première question, c'est est-ce que le fonctionnement est bien organisé? Est-ce que ça peut vraiment générer les choses, Monsieur Calmette?
ça pourrait générer quelque chose, mais toujours pareil, c'est toujours basé dans cette logique libérale, cette logique commerciale et cette logique productiviste. Je prends le cas du pôle cancer biosanté. C'est bien sûr une bonne idée d'axer un pôle sur le cancer, mais le problème c'est qu'il est axé uniquement sur le soin. Et donc il aurait été intéressant là de faire un volet préventif des cancers, en étudiant notamment les incidences environnementales. Mais un pôle fort.
Non, il y a un pôle fort, mais il y a quelque chose qu'ils sont en train de travailler qui est très important. Et c'est là où je suis désolé de dire qu'il y a aussi quelque chose qui se fait sur le diagnostic. Ils sont en train de travailler sur un nouveau marqueur bio pour pouvoir mieux diagnostiquer le cancer. On sait aujourd'hui que ça va nous coûter cher à la sécurité sociale et que les marqueurs, ils sont aussi dangereux pour la santé.
Alors moi, je ne parle pas de cette prévention, et c'est très bien ce que tu dis, mais moi, je parle de la prévention avant d'avoir un cancer, c'est-à-dire toutes les maladies déjà environnementales qui arrivent. C'est-à-dire qu'on fasse de la toxicologie, qu'on fasse de l'épidémiologie, c'est-à-dire ce qu'il faut pour éviter d'attraper des cancers. Parce que les cancers actuellement explosent, et on sait très bien qu'il y a des fortes...
Il faut diagnostiquer
pourquoi. Aujourd'hui, on a appris par exemple que les éthers de glycol étaient très dangereux. Ça fait quand même 25 ans que les chercheurs le disent. Il y a eu 500 études qui disaient que c'était dangereux. Aujourd'hui, on l'apprend. Aujourd'hui, on a appris encore dans la presse qu'il y avait 2 millions de personnes qui mouraient chaque année de maladies respiratoires ou autres à cause de la pollution. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut faire un pôle fort.
C'est sur le fonctionnement. Ce qu'il faut revoir, c'est le fonctionnement de ces pôles. Parce que la question qui a été posée tout à l'heure, c'est l'évaluation.
C'était ma question.
Nous, ce qu'on propose au Parti Socialiste...
Alors, attends, je termine. Alors, bon, bien sûr que la prévention, dans ce pôle cancer biosanté, ça ne doit pas intéresser Sanofi et Fabre de faire de la prévention. Donc, voilà. Donc, il y a quand même des péchés dans ces créations de pôles de compétitivité. Hein.
Les péchés, c'est sur l'évaluation. On propose, en assainement des présidentielles, le Parti Socialiste propose notamment la réforme du crédit d'impôt de recherche et la réforme de l'agence d'évaluation recherche et qui est aujourd'hui un genre d'agence de notation dont on voit bien sûr les dérives en matière financière et qui l'a même en matière de santé. Et aujourd'hui, cette agence, elle fonctionne pareil parce que la question, c'est qui c'est qui va décider parmi les partenaires et les pouvoirs publics sont là, l'État, les politiques. Qui c'est qui décide des bons secteurs où on va investir? Qui c'est qui décide des territoires? Et la question qui a été posée là, peut-être sur le cancer, c'est le problème, c'est les conflits d'intérêts avec les experts qui vont considérer qu'il va falloir travailler sur cette technologie ou sur cette maladie.
Le curatif plutôt que le préventif.
Bien sûr. Et c'est là où on touche du doigt les problèmes de cette structure-là qui, au départ, partait peut-être, pour ma part, d'un bon sentiment, mais qui est aux mains de certains qui y font aussi de l'argent et où les politiques, peut-être, sont perdues. Et il faut que dans ces nouvelles structures que nous devons réformer, que les politiques prennent en compte cette considération-là et aient un recul par rapport aux experts qui sont en conflit d'intérêts, et aussi que les politiques, quels qu'ils soient, ne soient pas dans des batailles territoriales. On ne l'a pas encore abordé, parce qu'il existe en France quand même deux pôles maritimes l'océan et sur la mer, et qui travaillent sur la même chose avec des conflits quand même importants et en opposition. Donc que les politiques aussi ne s'opposent pas entre eux et ne jouent pas leur carte électorale.
Alors c'est l'autre question, c'est le conflit ou pas d'ailleurs, mais entre les synergies à organiser et les territorialités. D'autant plus que, et là je me tourne vers M. Tranier, d'autant plus que j'ai l'impression que la propension au regroupement d'une part territoriale, on voit des monstruosités être proposées, on y reviendra peut-être un jour, être proposées aux gens, cette propension au regroupement a l'air de s'exercer aussi sur les pôles. Alors, un pôle qui a des ramifications dans toute la France, il est peut-être très puissant, mais je vois mal comment les gens travaillent véritablement ensemble et organisent leur synergie. Est-ce que je me trompe ?
Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. On peut imaginer beaucoup de choses, beaucoup de dispositifs. Certainement qu'en matière de recherche, on doit aller plus loin dans le domaine de la santé et d'autres. L'objectif, pour y revenir, des pôles de compétitivité, c'est un objectif économique et d'aménagement du territoire. Le but, c'est un des buts, c'est de créer de l'activité sur les territoires, de maintenir l'activité sur les territoires.
Mais si on explose leur territorialité, est-ce qu'on ne va pas à l'encontre de l'objectif?
Pour être efficace, et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, il faut plus on est de personnes dans le même secteur à travailler ensemble, plus il y a de chances qu'il naisse des synergies et des rapprochements. Je ne vois pas très bien en quoi le fait d'élargir le territoire serait peu efficace, et je dirais même au contraire. Avec de nouveaux partenaires qui seront voisins, on arrivera à plus. Vous voyez, par exemple, le pôle aéronautique Aérospace Valais, c'est Toulouse, Émilie-Pyrénées, disons, la première région aéronautique de France, et Bordeaux, enfin l'Aquitaine, qui sont la deuxième. Et c'est logique de les faire travailler ensemble, parce qu'eux, ils ont plein de choses à faire ensemble.
J'ai l'impression qu'on va plus loin aujourd'hui que des régions voisines.
Mais ça dépend des niveaux de la filière d'activité. Il y a un exemple très simple, c'est Skype, vous savez, le téléphone sur Internet. Bon, ça n'est pas un pôle de compétitivité français, c'est une entreprise norvégienne. Et quand l'Estonie est rentrée donc, dans l'Europe, ils ont créé leur labo de recherche en Estonie. Parce qu'il y avait, il y a un mot qui est très important dans la compétitivité et dans la technologie, c'est l'humus. Et on n'en a pas encore parlé, on y viendra peut-être. Mais ils sont aperçus que donc, à Tallinn, ils avaient été formés par les soviétiques avant, et il y avait des informaticiens de très très haut niveau. Et ils ont fait leur labo de recherche à Tallinn. Et pourquoi pas une entreprise de haute technologie dans les TIC, puisqu'on dit télécommunications, informatique et communication, dans ce type d'activité qui sera en Midi-Pyrénées, pourrait très bien travailler avec une entreprise se trouvant à l'étranger, avec une fertilité qui en ressort pour les deux. Donc, que l'une soit à Pau et l'autre à Bozouls, après tout, c'est parfaitement possible. Si c'est un domaine dans lequel il peut y avoir communication facile. Il est évident que dans la mécanique, c'est plus difficile. Mais je crois qu'il faut d'abord regarder la filière en profondeur et voir où on trouve les gens qui ont la connaissance des choses. Quant à M. Calmette, je le félicite parce qu'il veut un pôle pour la prévention. Et on va faire un pôle supplémentaire. Mais c'est vrai que ça aurait très bien pu être proposé.
Moi, j'ai cru comprendre que pour être fructueux, les échanges qui doivent être organisés au sein des pôles, il n'est pas souhaitable qu'ils soient binaires.
Oui. Alors,
plus on est éloigné, plus ils vont être binaires.
Vous avez raison, mais en même temps, quand vous mettez des entreprises d'une même filière côte à côte, il n'est pas sûr qu'elles communiquent très bien. Au contraire, chacune protège ses acquis. Et à la limite, il vaut mieux mettre une entreprise d'informatique à côté d'une entreprise médicale, et puis un cabinet d'experts comptables qui va venir travailler avec eux parce qu'il va trouver la clientèle. Enfin, avoir quelque chose qui s'agglomère très bien. Mais ça peut plus s'appeler un pôle de compétitivité dans la mesure où ça ne répond pas à la question de la filière.
Les pôles de compétitivité sont associés à des territoires. Mais on n'a pas créé.
J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas.
On n'a pas créé de nouvelles circonscriptions administratives. On n'a pas créé de cadres ou de contraintes rigides nouvelles dans lesquelles on doit absolument s'enfermer. Le but, c'est d'être efficace. C'est de travailler avec les meilleurs pour avoir les meilleurs résultats où qu'ils se trouvent géographiquement.
Alors,
c'est pas le cœur du problème.
Là,
à mon
sens. Je repose la question à toute la table. De ce point de vue-là, est-ce que l'organisation actuelle des pôles de compétitivité vous paraît remplir les conditions que vous venez d'exposer?
Dans la mesure où il y a une certaine souplesse qui permet d'élargir, si on se rend compte qu'il est pertinent d'intégrer tel ou tel acteur qui est à l'autre bout du pays, pourquoi pas? Après, ça peut être amélioré, ça reste une structure d'origine administrative, mais qui fonctionne plutôt bien, malgré tout, et qui n'est pas l'alpha et l'oméga de l'économie dans nos territoires. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ne sont pas dans des pôles de compétitivité, qui sont aussi très performantes, qui peuvent travailler avec d'autres entreprises et qui sont confrontées à certaines contraintes, qui sont les mêmes.
Nous avons un leader de notre département qui est RAGT, donc, qui dans les semences fait des choses très fortes, et pour des questions particulières, des points précis de recherche, elle est obligée de s'adresser à l'extérieur. Et elle peut très bien trouver une entreprise très performante dans une technologie qui lui va, qui va se trouver en Alsace. Après tout, si on lui apporte le service qu'elle demande, on peut admettre que ça participe à la réussite des RAGT. Tout dépend du domaine. Il y a des choses dans lesquelles il faut être à côté. C'est indéniable, parce que la proximité va engendrer quelque chose. Dans d'autres cas, ce n'est pas forcément nécessaire.
Oui. Pôle de compétitivité, ça va être un plus, un avantage, mais pas une contrainte. Les entreprises ont suffisamment de contraintes.
Et ceux qui ne sont pas, qui fonctionnent, qui ont des besoins d'échange entre entreprises, et qui ne sont pas dans les pôles de compétitivité, quel inconvénient vont-ils ressentir? Vous n'avez peut-être pas parlé d'argent maintenant, non, à nouveau?
Un des avantages majeur d'être dans un pôle de compétitivité, c'est pour une entreprise d'avoir des exonérations fiscales quand elle fait de la recherche. C'est un des avantages.
Pourquoi le Parti Socialiste propose de revoir le crédit d'impôt recherche et de travailler aussi à aider les PME, puisque ça fait partie des propositions phares pour la présidentielle, c'est de travailler sur les entreprises qui créent de l'emploi. Les entreprises qui ne sont pas dans ces pôles-là. D'ailleurs, je reviens à ce que j'ai dit au début. Paul, ça veut tout et rien dire, parce que Paul, ces instruments-là, c'est des instruments politiques où il y a l'État. Donc la question, et j'y reviens, c'est pour faire quoi ? L'intérêt commun, c'est lequel ? Il va être subjectif en fonction de notre appartenance politique. Celles et ceux qui ne sont pas dans ces pôles-là, que moi j'appelle cluster, ils vont se retrouver face à des monopoles, souvent, parfois, qui vont faire vivre des sous-traitants, mais des sous-traitants qui sont peut-être inféodés aux grands groupes. Alors, de dire que ça ne fait pas travailler les PME, c'est faux. Il y a des PME qui travaillent avec les pôles. Mais il y a ceux qui n'y sont pas et qui ne sont pas choisis par les grands groupes, y compris l'agroalimentaire, ils vont se retrouver tout seuls. Donc, Paul, c'est bien qu'il n'y a pas de monopole privé en face et qui exclut celles et ceux qui sont des travailleurs, des chefs d'entreprise qui essaient aussi sur leur territoire de faire quelque chose et de créer l'emploi et qui vont se retrouver face à des amas d'entreprises et des intérêts financiers qui sont énormes et qui, eux, peut-être vont être délaissés par l'État. Donc, c'est Paul de compétitivité. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut revoir tous les freins réglementaires qui font en sorte que la sortie ou l'entrée sur le territoire en France est compliqué, qu'il faut se poser la question du danger de la spécialisation à outrance et qui fera peut-être un jour qu'il y ait sur des secteurs donnés, on aura un chômage qui sera monstre parce que tel ou tel secteur ne sera plus en vogue et décidé par les experts. Et enfin, il faut revoir ce mode de structure et que les politiques reprennent le pas, ce qui veut dire que là, on aura des pôles qui véritablement joueront leur rôle, mais qui seront liés aux décisions et aux actions des politiques qui doivent là avoir du courage et de l'audace et dire sur tel secteur on va investir et avoir un peu une vision à long terme, ce qui est souvent rare pour des élus locaux nationaux qui sont souvent malheureusement
on le répétera, ça on mandat. Le répétera monsieur Lacroix hein. Bon, mais avoir de l'audace de l'audace et de l'initiative d'audace. Ça m'amène à ce que je crois être ma dernière question, j'espère que vous rebondirez amplement dessus. Quels sont les espoirs qu'on a maintenant, quels autres pôles on peut imaginer, notamment pour notre Aveyron? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce que vous imaginez mettre en place? Monsieur Calmette parlait de la prévention. J'ai entendu parler de choses qui s'orienteraient vers le bois.
Au passage, je voudrais saluer le pragmatisme de Lionel Lacroix, qui parle de déréglementation et de dérégularisation. Je voudrais souligner qu'il soutient, je crois, Ségolène Royal dans la primaire socialiste. Très bien. Moi, je le rejoins. Sans être certain que le problème des sous-traitants...
C'est Ségolène Royal.
Non, je le rejoins dans son pragmatisme. Mais pas autour de Ségolène Royal. Tout à fait. Oui, non, ce que je disais, c'est que le problème de la relation entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, je crois, c'est un autre problème que celui des pôles de compétitivité. C'est un problème bien plus global auquel il faut qu'on s'intéresse. Mais tout ne se passe pas dans les pôles de compétitivité. Nos territoires ont énormément de richesses et d'initiatives. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui créent de l'emploi, de l'activité... ici, à Villefranche, ailleurs, dans la région, qui ne sont pas dans des pôles de compétitivité, qui ont beaucoup de mérite, parce qu'ils sont confrontés à un certain nombre de contraintes. Alors, nous, notre territoire a aussi des atouts, mais c'est tout le monde qu'il faut soutenir. C'est toutes les entreprises.
Les activités du solaire. Parce que c'est intéressant, on va parler de bois. Mais, sur les nouvelles technologies, il y a des entreprises, il y a des champs, il y a des gens qui ont investi sur le solaire. Oui. Et au bout d'un moment, comme ça, par hasard.
Il existe deux pôles de compétitivité sur les énergies renouvelables.
Oui,
donc à Perpignan.
Ce qui n'empêche pas le gouvernement de délaisser complètement l'économie du solaire de l'alternative.
Écoutez, ce gouvernement est celui qui a adopté, qui a même été leader dans les objectifs à l'échelle européenne de réduire de 20% les émissions de CO2. Mais après, je vais passer aux mesures ensuite, monsieur Gros. Réduire les émissions de CO2, passer à 20% de part d'énergie renouvelable dans notre consommation d'énergie.
En favorisant le transport routier.
Il y a des énormes quantités. Oui, parce qu'on a aussi besoin de désenclaver nos territoires.
Mais on peut le faire autre chose que par le transport routier.
Comment par le TGV peut-être, mais les Verts s'opposent à la région, au TGV. Par le train, mais
pas
d'accord.
Obligatoirement par le
alors, bon courage si vous voulez aller à Paris. J'espère que vous avez beaucoup de temps devant vous parce que c'est pas très simple.
Nous demandons la rénovation de la ligne Polt. Pas
écoutez,
le TGV.
Qu'on passe de,
avec des trains pendulaires.
Qu'on passe de 7 heures à 6 heures de trajet, ça ne changera pas le problème.
Avec des trains déjà.
Oui.
Mais voilà. Je voudrais terminer sur la question des énergies renouvelables.
Si le pendulaire a capoté.
Mais bon, après, on a une belle réussite en France qui s'appelle le TGV.
Oui.
Alors, et qu'on exporte aussi d'ailleurs. Mmh.
Ben, écoutez, qui coûte très cher d'ailleurs.
Ah oui, mais aussi qui était quand même intéressant.
Ah, oui.
Pour revenir aux énergies renouvelables, vous avez suivi l'actualité récente, l'appel d'offres sur les fermes éoliennes qui a été lancé pour la Manche et qui vont nous permettre non seulement de produire une énergie propre, de façon massive, à l'équivalent de plusieurs tranches nucléaires, mais aussi de développer, parce que c'est cohérent, en France, une industrie spécialisée de pointe dans ces technologies propres. Voilà. Le Grenelle de l'environnement, c'est le Parti socialiste qui l'a fait.
Le Grenelle
c'est
d'environnement.
Pas le gouvernement de Lionel Jospin dans lequel il y avait
alors,
des verts.
Le Grenelle de l'environnement, il a été déjà proposé par M. Jean-Luc Borloo, qui au final n'est pas votre candidat.
De sortir un peu des pôles de compétitivité.
Je vous signale
mais,
quand même.
Non, mais la question des énergies. Non, mais
sur les économies d'avenir, moi je crois la croissance verte, M. Tranier, est très intéressé par le programme de Ségolène Royal, je l'invite à regarder les propositions. On est quand même à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy et on est encore en train de nous faire des belles promesses. Un président de la République qui se fait un nouveau candidat, qui se représente. Qui oui. se remet dans les habits du président de la République. Et je crois qu'au final, à la fin du bilan quand même gouvernemental, je crois qu'on est quand même en mesure de faire le pour et le contre et de voir quand même que les promesses en matière d'écologie et de développement durable, eh bien, elles sont suivies de peu et d'un appel à projet qui a été décidé au dernier moment. Vous ne pouvez pas considérer que ça, c'est le bilan. Et si c'est ça le bilan en 5 ans du gouvernement UMP, désolé, eh bien, je le trouve un peu léger.
On fera le bilan une autre fois.
Même les grands électeurs qui vous lâchent.
Les grands électeurs,
ma question, c'était sur les d'autres pôles de compétitivité.
Alors, on a parlé en amont de la filière bois. Alors c'est important. Moi j'ai amené ici un petit document qui est paru au comité d'expansion économique, c'est marqué Conseil général de l'Aveyron. Objectif 2001, ça a été fait en 91. On se donnait 10 ans pour avoir une filière bois performante. Si on la reprend aujourd'hui, ben, on s'aperçoit que malheureusement, cette filière bois performante a de gros soucis parce que à Bozouls, Vallaubrac, enfin Coval a des difficultés. Stener, qui est du même groupe à Sévrac, a des difficultés. On ne sait pas s'ils vont continuer. Combette à Entrailles a également des difficultés. Et c'était donc, il y a 20 ans, les entreprises sur lesquelles on pariait au niveau du département. Les pôles de compétitivité n'existaient pas encore, mais on parlait de filière bois. Parce qu'on a effectivement ici 35% de forêt sur le territoire, qui est un des plus vastes de France, et dont on n'exploite que 35%. Il y a des tentatives faites avec le robinier, je crois, vous devez le connaître, qui est un acacia qui a les vertus du bois exotique. On essaye des choses, mais en attendant, tout part à volo en ce moment, et je ne sais pas si dans pas très longtemps, les 177 salariés de Vallaubrac devront dire au revoir à leur travail.
Est-ce qu'on a un espoir de création de pôle, et est-ce que c'est une solution?
Alors, rien n'a été fait dans les synergies, parce que ne serait-ce que Vallaubrac, dans Vallaubrac, vous avez Espalux, l'ancien Espalux, et vous aviez Stener, qui fabrique des canapés. Jamais les deux entreprises n'ont mis en synergie des activités, par exemple. D'un côté, on a le bois moulé, de l'autre, on a l'aglo revêtu. On aurait très bien pu envisager, par exemple, de créer des nouveaux modèles avec des courbes, des choses comme ça, en mettant en synergie les deux entreprises. Elles ne l'ont pas fait. Bon, c'était à l'époque, là, ça avait été repris à ça a été créé par quelqu'un d'Espalion qui s'appelait Astruc, et ça avait été repris par l'entreprise du père de Madame Parisot. Il les a fait tourner jusqu'à ce qu'ils les vendent, et puis aujourd'hui, elles s'aperçoivent que dans le marché qui est en régression, dans lequel seuls les produits de luxe ont encore une vie importante avec les Italiens et les Allemands, bah, les produits bas de gamme ont du mal à se battre contre ce qui vient de Bulgarie ou de Pologne. Et il est sûr qu'on a mal choisi. Et c'est un exemple pour l'Aveyron. Stener étant le contraire, parce que Stener, c'est des canapés de luxe. Mais c'est un exemple pour l'Aveyron. On est un petit pays qui fait des petites productions. Et dans l'essentiel de ce qu'on fabrique, il faut tout axer sur la qualité, l'unicité, quelque chose de haut de gamme, qui soit unique et qui ait une qualité de fabrication, ou les produits du terroir pour agrimip, ou des choses comme ça.
Monsieur Calmette.
Oui, c'est vrai qu'un pôle bois, un pôle de compétitivité bois Midi-Pyrénées et en Aveyron serait intéressant pour le bois d'œuvre, vous l'avez dit, pour la fabrication de meubles, pour la fabrication d'habitats, mais aussi pour un pôle énergie-bois. Et d'ailleurs, il y a des départements qui l'ont bien compris, comme le Lot, je cite par exemple, où il y a un syndicat qui s'occupe justement de développer les chaufferies bois sur le département, de trouver la ressource bois, et ils sont en train de développer justement une industrie du bois. Et en fait, je voulais dire, puisqu'on termine, qu'il existe quand même un quatrième pôle de compétitivité en Aveyron, qui est un pôle haut. Qui est un pôle tri-régional, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et PACA, qui travaille notamment sur l'identification et la mobilisation de la ressource, la gestion concertée des ressources et des usagers, mais qui est tout récent puisque ça date de 2010.
Oui, ben... oui, moi je rejoins monsieur Calmette sur le potentiel du bois énergie en Aveyron, qui est considérable. On a une ressource importante qui est un peu difficile à exploiter, mais qui s'organise. Et il y a des projets de collectivité, des études sont en cours, notamment pour tout un quartier de Villefranche-de-Rouergue, de mettre en place pour des équipements publics, éventuellement des HLM, une chaufferie bois avec une ressource, une matière première venant des forêts à proximité d'ici.
D'une manière ou d'une autre, c'est quand même un agrocarburant et ça réserve parfois des surprises étonnantes, les agrocarburants. Monsieur Lacroix, ouais. Sur les pôles futurs.
Les pôles futurs, je ne sais pas, je pense qu'il faut... pour conclure, on voit que ces pôles de compétitivité, ils sont surtout... mis en œuvre par des partenaires locaux, des entreprises et des élus locaux, et que même si on a des pôles à vocation mondiale, internationale, et c'est souhaitable, il ne faut pas oublier que la politique industrielle, ça se passera aussi par la France, et que les 150 000 élus qui ont donné un signal d'avertissement au gouvernement attendent peut-être autre chose en matière de politique industrielle que des financements dans des pôles de compétitivité. Donc la question, c'est à quand une véritable politique industrielle digne de la France qui nous avait permis, comme à l'époque, d'avoir des innovations comme le TGV, comme l'Airbus. Donc c'est la question qui reste en suspens et qui, je pense, fera partie des débats de la
présidentielle. On saura une autre fois ce qu'est l'époque. Mes petits-enfants disent que c'est l'époque et d'époque. Donc c'était Table Ovale, c'est ainsi que se termine Table Ovale sans ellipse, consacrée ce soir au pôle de compétitivité. Et nous recevions autour de la Table Ovale Laurent Tranier pour l'Union pour un mouvement populaire, Christian Gros pour le MoDem, Jean-Louis Calmette pour Europe Écologie Les Verts, Lionel Lacroix pour le Parti Socialiste et Claude Devezin régulait un petit peu tout ça. Et je vous dis donc dans un mois, cette fois nous serons à Rodez pour Table Ovale sans ellipse.